Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Pauline Agnot et bienvenue dans un nouvel épisode des leçons. Eh bien oui, c'est mercredi et comme chaque mercredi, je réponds à l'une des questions de l'un ou l'une d'entre vous ici sur le podcast. Aujourd'hui, ne déroge pas à la règle, au contraire. J'ai une question très intéressante de Séverine qui m'appelle du sud de la France, qui a créé non pas une mais deux voire peut-être trois, si j'ai bien compris, entreprises. Donc elle est slasheuse, multi-entrepreneuse. Elle a énormément de talent et pour autant, elle en arrive à être à une période de sa vie où elle se pose énormément de questions. Elle se demande si elle est encore à sa place, si elle ne doit pas peut-être fermer l'une de ses entreprises qui rapporte un petit peu moins, qui lui prend énormément de temps. Et pourtant, cette entreprise, c'était sa passion depuis des années, mais elle a développé d'autres activités en parallèle, qu'il se comporte mieux. Et donc, bref, se pose énormément de questions, sincèrement un peu existentielles sur sa carrière et sur ce qu'elle doit faire ou pas dans le cadre de ses activités diverses professionnelles. J'ai trouvé que c'était un épisode qui était émouvant, qui était touchant. Je remercie Séverine d'avoir été aussi sincère avec moi. Vous verrez, on parle un peu plus de ces sujets perso sur la fin de l'épisode, donc je vous invite à l'écouter jusqu'au bout. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Séverine.
Salut Pauline.
Eh ben, je suis enchantée d'être avec toi aujourd'hui. J'espère que c'est réciproque.
Également, merci infiniment pour le temps que tu m'accordes. C'est vraiment un grand honneur. Je sais que tu es beaucoup prise et que tu as beaucoup d'activités, donc j'en suis d'autant plus honorée.
Écoute, quand on aime, on ne compte pas, comme on dit. Et du coup, je trouve toujours un peu de temps pour les leçons. Bah justement, alors si ça te va, Séverine, ce que je te propose, c'est que tu commences par me dire qui tu es et d'où tu viens. Et ensuite, bah, qu'est-ce qui fait que tu es avec moi aujourd'hui? Quelle est la question qui te turlupine?
Avec plaisir. Alors, je vais essayer de faire court pour la présentation. Donc, je suis Séverine Gamba, âgée de 42 ans. Je viens du Sud. Je pense que ça s'entendra au travers de la leçon. Je suis la fondatrice de la Maison des Coquettes, un concept d'institut de beauté qui a été créé en 2015, dédié aux enfants et aux mamans. Et je suis également la fondatrice de la marque La French Coquette, qui est née en 2019, avec le souhait de créer une marque de maquillage courte, dédiée à toutes les générations, et distribuée exclusivement en institut de beauté. Et en parallèle, je suis également meilleure ouvrière de France, donc en esthétique.
Eh ben dis donc, félicitations, tu disais que j'ai beaucoup d'activités, mais toi aussi Séverine.
Oui, pas mal. Et aujourd'hui, ben, c'est justement pour ça que j'ai fait appel à toi, Pauline, parce que je sais que tu as vraiment un parcours très inspirant. Et je me sens vraiment à la croisée de plusieurs chemins. Je pense que depuis 2015, malgré mon parcours assez riche dans mon univers de l'esthétique, je suis un peu perdue parce qu'en 2015, quand j'ai créé le concept de la Maison des Coquettes, j'avais la volonté de le franchiser. Et pour appuyer ce concept en franchise, je m'étais dit que d'avoir un titre vraiment qui allait valoriser mon métier, ça allait appuyer ce développement. Et en 2019, j'ai eu la chance de pouvoir ouvrir ma première franchisée et en même temps d'obtenir mon titre de meilleur ouvrier de France, que j'ai obtenu vraiment par l'acharnement et la résilience dans un parcours professionnel dans lequel je me donne vraiment à fond.
Et, incroyable, hein, franchement, et, bravo.
Ouais, c'est compliqué parce que j'ai eu l'impression que sur la finalité, mon titre de meilleur ouvrier de France aujourd'hui est en train de me desservir. Alors, je pense que c'est peut-être une erreur de croire ça, mais c'est vrai que comme beaucoup d'entrepreneurs, on est souvent victime un peu du syndrome de l'imposteur. Et aujourd'hui, ben voilà, je suis dans mon institut pilote qui est né également en 2019 pour vraiment avoir un lieu où je pourrais accueillir les futurs franchisés de façon à transmettre mon savoir et tout ce que je pourrais leur apporter en plus. Et finalité, en fait, j'ai eu du mal à consolider mon équipe parce que beaucoup en fait de clientes qui franchissent la porte aujourd'hui souhaitent dans l'institut pilote parler à moi.
Et normal.
Voilà. Alors, c'est vraiment la problématique et la difficulté, c'est arriver à asseoir une équipe solide et se dire que moi, je peux être un petit peu libérée de ces fonctions en cabine qui aujourd'hui pénalisent mon développement. Et en soi, je sais que le concept marche parce que la franchisée qui n'est pas meilleure ouvrière de France cartonne. Et c'est quand même un exemple, de Voilà, de se dire que le concept fonctionne, même si je n'y suis pas à l'intérieur. Mais je n'arrive pas à en sortir parce que ben, j'arrive pas en fait à recruter et à trouver une équipe stable pour pallier ben, en fait à cette charge qui aujourd'hui me pèse vraiment dans le quotidien.
Écoute, c'est vrai, déjà je vais te dire un truc, ça va peut-être pas te rassurer, mais je te le dis quand même, c'est que tu n'es pas seule. Parce qu'en fait, cette problématique, et j'ai l'impression que dans ton cas, mais tu vas me le préciser, elle est double, à savoir à la fois de recrutement des bonnes personnes et de management et d'entretien, si tu veux, des perspectives de ces personnes, c'est pas facile et loin s'en faut, je le vis aussi au quotidien et à peu près tous les entrepreneurs que j'ai pu recevoir sur le podcast me dire que l'humain, c'est le plus dur, parce que, on pourra en parler, mais en fait, les gens changent, les entreprises changent, donc forcément, c'est très difficile d'entretenir une relation professionnelle comme ça, saine dans le temps. Et puis, donc ça, c'est un premier point qui est difficile et tu n'es pas seule. Et le deuxième, j'ai l'impression, c'est que tu me dis également, si j'ai bien compris, que tes clientes ont envie de te parler à toi directement et d'être traitées par toi directement. Et donc, tu as une double problématique qui est que, un, t'arrives pas bien à recruter et à manager, si j'ai bien compris. Et deux, en plus, tes clientes n'ont pas très envie d'être traitées par d'autres personnes que toi. C'est bien ça, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Bon, dans les deux cas, tu n'es pas seule. Ça ne te rassure pas, mais sache qu'en fait, là, tu touches de doigt le cœur de beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets entrepreneuriaux. Et d'ailleurs, je précise pour les personnes qui nous écoutent que bien souvent, les gens se disent, ah non, mais moi, ça ne me concerne pas parce que moi, je ne suis pas incarnée. Mon entreprise n'est pas incarnée. Donc, par exemple, là, tu m'as dit, tu vois, c'est parce que j'ai ce statut de MOF que en gros, mes clientes ont envie de me parler et d'être traitées par moi. Je t'arrête tout de suite, ma chère Séverine. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas parce que tu es MOF. C'est tout simplement parce que tu es la fondatrice de ton entreprise. Et donc, tu seras toujours la personne que les gens vont vouloir voir en premier. Et moi, tu sais, le nombre de fois où on m'envoie des messages sur mon LinkedIn ou mon Instagram pour me parler du fait que on a, enfin, je sais pas, est-ce que je peux faire passer telle commande de bijoux avant les autres, ou est-ce que tu vois, je peux avoir un prix ou machin. En fait, tu vas devenir d'une certaine manière, quoi que tu veuilles ou pas, la figure en fait de ton entreprise, parce que tu en es la fondatrice. Et que tu sois sur les réseaux sociaux ou pas, petite anecdote, et je continue juste là-dessus rapidement, j'ai même entendu dire, parce que j'ai des amis qui travaillent chez LVMH, que Bernard Arnault, donc le président de LVMH, himself, reçoit des messages, alors il s'est traité par son équipe, hein, par lui vraisemblablement, mais reçoit des messages personnels de clients qui se plaignent d'un SAV, lui disent qu'ils veulent une remise, etc. Donc tout ça pour te dire que en tant que fondateur d'entreprise, tu n'y couperas pas. Et déjà, tu peux t'ôter de l'esprit le fait que tu as mal fait de devenir MOF, parce qu'en fait, ça n'a rien à voir. C'est juste que tu as fondé cette entreprise. Et que si tu étais l'employé de cette entreprise et non pas la fondatrice, ta vie serait très différente. Mais aujourd'hui, en tant que fondatrice, tu as à la fois un super pouvoir qui est que tout ce que tu fais est beaucoup plus puissant, je pense, que ce que l'un de tes employés peut faire, parce qu'en fait, il a une image, il a une portée, un impact forcément plus important en tant que fondateur. Mais d'un autre côté, c'est aussi du coup terrible comme poids à porter, parce que c'est beaucoup plus difficile de s'extraire de l'opérationnel et de réussir à bien déléguer d'une certaine manière, parce que ton rôle de fondateur finalement te force en fait à rester très proche du terrain. Et je te le dis sincèrement, je suis dans ce cas de figure aussi, et beaucoup beaucoup de mes amis entrepreneurs fondateurs sont également dans ce cas. C'est quand même très différent d'être un dirigeant d'entreprise fondateur et d'être entre guillemets dirigeant d'entreprise non fondateur, juste dirigeant d'entreprise, parce qu'il n'y a pas ce poids situé, cette image à porter. Donc déjà, première chose, le MOF, franchement, ne te sens pas coupable ou ne te dis pas que tu as mal fait. Je pense que c'est une très belle chose. Tu peux être très fier de toi. Et franchement, c'est pas ça qui va faire en réalité que les gens vont vouloir ou pas te parler. C'est juste que tu es fondatrice. Maintenant, on va essayer de s'attaquer au problème. Donc, comme il y a deux sujets, je pense qu'il faut va falloir les traiter séparément. Bon, t'as vraisemblablement un problème qui est une fois de plus un très classique de recrutement et de formation. J'imagine qu'il est lié aussi peut-être à des moyens qui sont limités. Néanmoins, c'est pas que ça. C'est aussi qu'il faut être très dur et très exigeant. Quand je dis dur, c'est pas être méchant, mais c'est très exigeant sur la manière dont on recrute des collaborateurs, parce qu'il faut vraiment que ces collaborateurs, en fait, deviennent presque ton prolongement et que ça soit des personnes, et ça ira dans le sens de mon deuxième point, en fait, puissent faire exactement tes gestes, puissent être comme si quasiment c'était Séverine, si tu veux, qui était dans la cabine, que ces personnes puissent faire les choses comme toi. Donc ça passe par un bon recrutement, une bonne attitude, et moi je pense en général que l'attitude compte franchement plus que les compétences, puisqu'en tout cas les compétences c'est toi qui vas lui apprendre, puisque tu veux qu'elle fasse les choses, cette personne, à ta manière. Et donc bon, d'une certaine manière le CV c'est important qu'elle ait peut-être quelques notions d'esthétique, mais je pense pas que elle va arriver avec tout son bagage. Si elle n'arrive pas avec un bagage complet, c'est pas grave, parce qu'en tout cas tu voudras la former. Donc je pense qu'il faut que tu fasses peut-être un petit peu plus attention au niveau du recrutement, et puis surtout au-delà du recrutement sur la formation, passer un temps qui est beaucoup beaucoup plus long que ce qu'on croit sur la formation, et en fait très rapidement te poser la question: est-ce que cette personne me fait réellement gagner du temps? Et si jamais cette personne, au bout de quelques semaines, tu vois qu'elle commence à te faire vraiment gagner du temps, qu'il y a plein de tâches que tu faisais qu'elle commence à faire, là ça veut dire que c'est un bon recrutement. Si c'est quelqu'un qui du coup n'est pas autonome, c'est comme ça que ça s'appelle quand elle fait son travail, puisqu'en fait elle continue à te solliciter, elle a des problèmes, c'est normal en fait en tant qu'employé, si tu veux, de ne pas forcément savoir, mais il y a un moment donné où il faut quand même remettre l'église au centre du village. Même si l'employeur doit former le collaborateur, bah le collaborateur il est quand même là à un moment donné pour faire gagner du temps à la personne qui le recrute. Sinon, il recruterait pas, si tu veux, l'employeur. Et donc, il faut, on peut le perdre un peu de vue parfois quand on est employé, je pense, et on se dit, bah, il faut que je sois formé. Oui, mais bon, on est aussi là pour faire gagner du temps à la personne qui nous a recruté. Et donc, toi, ton rôle de dirigeante, et là, c'est vraiment ton rôle d'entrepreneur dirigeante, c'est d'essayer de jauger si la personne que t'as embauchée a appris suffisamment vite et te fait gagner suffisamment de temps vite, pour que tu aies envie de la garder. Si c'est pas le cas, si t'as un doute, si tu trouves que c'est un peu fastidieux, que tu mets trop de temps, même si c'est quelqu'un d'adorable, etc., a priori, c'est plutôt pas la bonne personne. Tu peux évidemment lui faire des feedbacks et lui expliquer pourquoi là ça va pas, essayer de la faire progresser. Mais malgré tout, je peux te le dire de mon expérience, c'est pour ça qu'on dit bien souvent, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Quelqu'un qui ne te fait pas gagner rapidement du temps ne t'en fera jamais gagner suffisamment. En gros, si je te résume. Et c'est pas que la personne n'est pas intelligente, c'est pas que la personne, c'est juste que c'est pas forcément le bon fit, si tu veux, pour toi et cette personne. Donc ça, je te l'ai résumé de manière extrêmement succincte et peut-être un petit peu brutale, mais je dirais qu'il y a un vrai sujet, à mon avis, dans ton cas, de recrutement, engagement des collaborateurs et, tu vois, s'assurer qu'en fait, t'as des personnes qui, arrivent, à qui tu arrives réellement à déléguer.
Ouais,
je sais pas si ça te parle.
Si, j'entends complètement, Pauline, ce que tu me donnes en conseil et ce que tu mets en avant, et ça reste une évidence. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai fait en fait le choix d'être encadrée et entourée que d'alternantes. Donc à mes côtés, j'ai des alternantes qui sont finalement me donnent l'impression d'être plus motivées que certaines collaboratrices que j'ai pu avoir en tant que salariée. Et en fait, ce qui est très déstabilisant, c'est que je pense que le Covid a vraiment créé une mutation au niveau des recrutements. Les gens, en fait, sont du moins certaines salariées. Elles font 2 ans à tes côtés et au bout de 2 ans, elles cherchent une expérience nouvelle. Et je le comprends. Hein, aujourd'hui, c'est vrai qu'on reste plus sur des postes 20, 30 ans, comme on a pu le voir avec nos parents où ils étaient dans des entreprises et jusqu'à leur retraite, ils y étaient. Mais c'est assez fastidieux parce que je suis prise par d'autres activités telles que ma marque de maquillage qui a connu un déploiement assez grand, parce qu'aujourd'hui j'ai 60 distributrices. Alors ça paraît peu,
super,
mais à mon échelle, je suis toute seule et je me dis 60 distributrices sans être sur le terrain qui distribuent ma marque, et en fait je me retrouve à faire
incroyable.
Les colis le soir, la facturation, le scotchage.
Non, mais c'est plus possible, c'est vrai, c'est plus possible, on va
tout
te sortir de là.
En fait, je
suis d'accord avec ce que tu dis. Alors, est-ce que c'est le Covid, pas le Covid, j'en sais rien. Ce qui est certain, c'est qu'en fait, il y a une... C'est moins le cas qu'à l'époque de nos parents. Enfin, c'est une évidence où le métier, c'était toute la vie. Maintenant, en fait, c'est un peu plus de charge de travail, je pense, pour l'employeur qui doit en fait donner des perspectives, faire évoluer, entretenir la relation. Oui, c'est plus fatigant pour
c'est
nos autres
fatigant.
Employeurs. Je pense que ça ne l'était sincèrement pour nos parents ou nos grands-parents. À l'inverse, il y a aussi peut-être des relations qui sont plus saines, qui sont plus, plus sincères de la part des collaborateurs. Et donc, bref, tout ça pour dire que sans jugement, en fait, du coup, ça nécessite le fait de réussir à entretenir des collaborateurs dans le temps, surtout quand on est, j'imagine, sur des tâches assez répétitives, de les motiver, de les entretenir, etc. Donc, une solution pourrait être que tu recrutes un manager dont le job, en fait, va être de former, d'animer, tu vois, toutes ces personnes, toutes ces alternantes qui sont certainement super, mais qui ont besoin, en fait, de présence. Et toi, si je comprends bien, bah, tu ne peux pas être tout le temps présente. Et ça, surtout quand t'as des personnes assez juniors, ce qui est le cas avec des alternantes, forcément, la présence, elle est assez essentielle, sincèrement, pour garder la motivation. Parce que, tu connais la phrase, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. C'est pas que les souris sont pas gentilles et que les souris n'ont envie de rien faire. C'est juste qu'elles sont humaines. Ce ne sont pas vraiment des souris. Ce sont des êtres humains. Et que l'être humain, bah, en fait, il est pas très discipliné. Moi, c'est pour ça que j'ai pris un coach pendant des années. C'est qu'en fait, si je m'écoutais, ben, je resterais au lit, si tu veux, le matin et j'irais pas faire mon sport. Et c'est parce que je sais que je ne suis pas disciplinée que je prends un coach. Et ben, un employé, c'est la même chose. C'est pas qu'il est méchant. On y met souvent des intentions. C'est juste que si personne ne surveille jamais rien, bon, bah, à un moment donné, il se dit, bah, que je le fasse ou que je le fasse pas, ça change rien, autant que je le fasse pas, quoi. Et c'est pas malveillant de sa part, c'est juste, une fois de plus, humain. Les personnes qui nous écoutent vont certainement se dire que j'ai une vision du monde qui est négative, je pense juste qu'elle est réaliste. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'avoir, tu vois, un manager, en tout cas, dont le job, c'est réellement de s'assurer, en fait, que toute l'équipe en dessous, elle est motivée, parce qu'en fait, il y a quelqu'un au quotidien qui, leur donne des feedbacks, les manage, justement, leur donne des perspectives, essaye de les motiver parce que on va essayer de faire telle chose différemment. Ça pourra, je pense, énormément t'aider, déjà être moins présente sur place. Et puis surtout à aussi plus les animer, quoi. Parce que là, j'ai l'impression que t'es un peu dans le cas pourri, désolé, où à la fois t'essayes de bien faire et de les entretenir, de les motiver, de leur apprendre, mais en même temps, comme t'as tes autres activités, bah t'arrives pas vraiment à le faire bien. Du coup, ça se passe pas très bien avec elles, mais toi, t'as pas non plus assez de temps pour faire tout ce que t'as à faire.
Oui.
Du coup, pour sortir de ce cercle, tu vois, un peu vicieux, il y a pas tellement de recettes magiques, mais je pense que la seule solution, enfin, il y en a deux. Soit t'arrêtes tes autres activités, tu te consacres 100% au management, mais j'ai pas l'impression que c'est ce qui te fait kiffer. Et l'autre option, c'est tu recrutes des managers. Moi, c'est ce que j'ai fait avec Gemio. C'est pas possible, je peux pas, si tu veux, avoir toutes mes activités et en parallèle de ça, manager notamment des personnes un peu juniors en direct. C'est pas possible. Et d'ailleurs, même chez Gemio, je veux dire, on a probablement pas encore assez de managers pour jouer ce rôle, justement, de présence très importante avec des collaborateurs. Et donc, je pense que dans ton cas, c'est ça, c'est que t'as probablement besoin de quelqu'un qui sera un peu ton bras droit, quoi, humain, et qui pourra recruter ces personnes, qui pourra s'assurer qu'elles ont ces perspectives, les motiver, réfléchir à leur augmentation, leur faire peut-être des petits incentives, des petits bonus si jamais elles arrivent à, je sais pas, vendre des produits cosmétiques en plus, faire des points avec ta marque de cosmétiques, ce genre de choses. Si jamais tu fais pas ça, je pense que tu ne sortiras pas facilement, en fait, de cet entre-deux qui a l'air d'être difficile à gérer.
Oui. C'est de plus en plus pesant, et en fait tu le mets en avant, c'est que j'ai l'impression finalement de pas bien faire les choses, parce que ben je suis un petit peu dans tous les sens. J'ai un mail qui tombe, pas une commande, alors que je sors de la cabine, je sors d'un soin. À la fois, j'ai mon alternante qui est là en attente pour que je lui donne les missions, et finalement j'ai l'impression d'avoir quatre cerveaux en un. Comme beaucoup d'entrepreneurs.
C'est le cas, hein. Franchement, là, t'es en train de faire l'impossible, là. T'es en train de faire un truc qui est, si on est honnête, Séverine, c'est un peu inhumain, franchement, ce que t'es en train de faire. Alors, tu te l'es imposé à toi-même, hein, en réalité. Mais t'es en train de faire un truc très, très dur. Parce qu'en fait, comme t'es entrepreneur, que t'es motivé, tu fais quelque chose que, mais aucun employé n'accepterait de faire. Tu bosses nuit et jour, t'es très fatigué, tu réponds à tout. Et en fait, t'arrives à le faire pendant un temps parce que c'est ta boîte, que t'es hyper motivé, que du coup tu c'est vraiment littéralement, c'est comme si t'étais en train de tirer une charrue à la main, quoi. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, t'as besoin d'énergie parce que t'es un être humain, donc il va falloir qu'on te recharge un petit peu tes batteries, parce que sinon tes batteries, au bout d'un moment, je te le dis, elles vont arriver à plat. Et donc le meilleur moyen de se recharger ses batteries, c'est que tu délègues une partie du poids de la charrue, si je fais la métaphore, à quelqu'un qui va la tirer avec toi, de telle sorte que toi tu sois plus tellement en train de tirer les bœufs, mais tu sois plus sur la charrue en train de dire dans quelle direction il faut aller, tu vois, c'est plus ça la vision. Et aujourd'hui, je pense que t'es un peu trop en train de tirer la charrue.
Oui, du coup, c'est vrai que, en fait, j'étais en plein questionnement de me dire, j'ai créé maintenant depuis 8 ans le concept de la maison des coquettes. Est-ce que j'arrête tout? Est-ce que, je mets en deuil ce concept pour lequel j'ai
investi? Ça peut être une option aussi, hein, si tu préfères te consacrer au reste, ça peut être une option. Mais je pense que c'est pas la seule. il faut que tu y réfléchisses mûrement et malheureusement c'est pas là ensemble, tu vois, en 20 minutes que tu vas pouvoir le décider, mais par contre je pense que tu peux te dire, donc si ce projet me tient à cœur, que j'y crois, la situation actuelle n'est pas possible. En revanche, est-ce que j'ai les moyens de recruter un manager qui pourrait être un manager donc pour cette maison des coquettes? Est-ce que si jamais j'ai ça et que moi j'y consacre moins de temps, cette personne, elle peut à la fois manager les esthéticiennes sur place et puis peut-être faire un petit peu de marketing aussi, tu vois, par exemple pour essayer de faire connaître l'entreprise. Et dans ce cas, peut-être que ça peut être une solution, tu vois. Peut-être pas, peut-être que ça n'est pas viable et que tu vas te rendre compte que finalement cette entreprise, et parfois il faut voir la réalité en face, ne fonctionne que si jamais au niveau financier, j'entends, c'est toi et du coup ton absence de salaire ou ton salaire faible d'entrepreneur gère, si tu veux, la partie management, la partie communication. Il y a des entreprises, c'est comme ça, qui ne sont pas fondamentalement financièrement saines parce que elles reposent sur un postulat qui est qu'il y a un entrepreneur qui fait 4 jobs. Mais ça, c'est pas sain, tu vois, c'est pas tenable dans le temps. Ça tient un temps, il faut le faire au début. Mais au bout d'un moment, si jamais l'entreprise n'a pas réussi à générer suffisamment de chiffre d'affaires pour pouvoir se structurer un petit peu, l'entrepreneur finit par juste faire un burn-out ou tout laisser tomber, tu vois. Mmh. Et donc, j'espère que... Enfin, moi, surtout, j'ai pas du tout envie que tu fasses un burn-out. Et je pense que malheureusement, là, t'es dans une situation où ça va arriver. Honnêtement, je te le dis, si jamais tu fais pas quelque chose. Parce que si t'as plus très envie, alors que c'est un projet qui te tient hyper à cœur au bout de 8 ans... c'est un peu anormal. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pas toi qui va pas, c'est ton organisation.
Complètement. Mais là, tu as touché du doigt vraiment le gros point noir. C'est que je pense que quand j'ai pris contact auprès de toi, Pauline, c'était vraiment... en fait, tu as été ma petite lumière au bout du tunnel, si je peux dire. Et ça m'a redonné de l'espoir du fait que tu prennes du temps. Je trouve que tu es quelqu'un d'hyper généreux et c'est vrai que d'avoir des personnes comme toi, malgré, on sait tous les auditeurs là qui doivent être connectés pendant la leçon, que tu es toi aussi sur multiples activités, t'as cette générosité qui donne encore de l'espoir. Et c'est vrai que tu m'as redonné un regain d'énergie et je me suis dit, voilà, on va poser un peu les choses. Et je me donne le début d'année pour savoir si je continue sur la lancée du concept qui était dédié vraiment à l'esthétique intergénérationnelle, ou si je me mets à fond sur le développement de ma marque de cosmétiques qui finalement, sans une force commerciale sur le terrain, fonctionne. Donc,
parfois aussi, tu sais, il faut se mettre... Déjà, je te remercie, ça me touche beaucoup parce que...
Ah, c'est vraiment sincère.
Je te cache pas que c'est pas tous les jours facile pour moi non plus, au sens où, en réalité, moi aussi, j'ai bien souvent l'impression de tirer le chariot et de pas être assez libre encore de tout ça. Mais c'est important pour moi et du coup, tes mots me touchent particulièrement. Mais au-delà de ça, ce que je voulais te dire, c'est... Je pense que le temps là que tu vas prendre de stratégie, de vie d'une certaine manière, de se dire en fait peut-être que c'était trop tôt ou peut-être que c'est arrivé à son terme et que j'ai fait ce que j'avais à faire, ça a duré 8 ans, c'était génial, mais ça n'est plus ce que je veux maintenant, ça n'est plus ma priorité. Déjà, c'est tout à fait sain de se poser ces questions, ce qu'il ne faut et tu n'auras pas... Enfin, vraiment, j'espère que tu le vivras pas comme un échec, parce qu'en fait, c'est déjà merveilleux d'avoir réussi à tenir une entreprise pendant 8 ans. Et si tu la fermes pour les bonnes raisons, parce que tu veux te consacrer plus à un autre projet, c'est pas un échec, c'est juste une décision, en fait, si tu veux. Donc, vraiment, faudra pas que tu te sentes coupable à ce moment-là. Pour terminer, je pense que ce temps de recul, il sera assez propice, tu vois, à Noël. C'est un bon moment en général où on a un peu plus de temps justement pour réfléchir. C'est même quelque chose avec qui tu peux discuter tout ça avec tes proches. Ça peut être intéressant d'avoir leur retour. Mais ces questions-là, elles sont essentielles. Et vraiment, moi, je t'incite à te les poser parce que, à l'inverse, tu vois, rester dans la petite roue qui tourne, où tu te mets des œillères parce que t'es une gentille personne qui se donne du mal, qui est ambitieuse et qui est bosseuse, en fait, ça marche un temps, je te le dis, mais ça marche pas toute la vie. Et à un moment donné, ta batterie, elle va être à plat. Et quand elle sera à plat, tu vas être très difficile à récupérer. Donc, il faut absolument, si tu veux, que tu prennes cette décision avant d'arriver à un moment où t'as plus envie. Parce que si t'as plus du tout envie et que ton entreprise te dégoûte, là, ça devient difficile, tu vois, de récupérer les choses. Alors que si jamais tu décides de manière consciente de faire des choix, que ce soit de recruter et de déléguer, d'être moins présent de toi-même, ou que ce soit de carrément vendre cette entreprise, ou la je sais pas, la mettre en sommeil aussi, c'est tout à fait possible. T'es pas obligé de la fermer, tu peux la mettre en sommeil, tu vois. Et faut voir après quels sont tes coûts, mais au moins garder la structure administrative, on va dire. Y a plein de solutions si tu veux qui existent, et donc il faudra juste les voir avec lucidité et ensuite décider, mais sans si tu veux être acculé, parce que vraiment si jamais tu vas trop loin et que t'attends trop longtemps, je l'ai vu beaucoup trop de fois autour de moi, et moi-même je l'ai déjà vécu à certains égards, c'est beaucoup plus difficile si tu veux de retrouver l'énergie. Ça nécessite un effort sincèrement mental qui est assez colossal, alors que si tu t'arrêtes à temps, tu vas voir, tu repartiras comme en l'an 40 très vite.
Écoute, c'est dommage qu'on puisse pas être branché sur une prise, hein, pour se recharger tous les jours.
Ouais.
Comme les téléphones.
Oui, mais tu sais, je te le dis parce que honnêtement, je j'ai jamais été diagnostiquée avec un burn-out, mais je pense que j'ai eu 2-3-4 périodes assez difficiles dans ma vie aussi. Et ce qui fait la différence, je te le dis, c'est de s'arrêter. C'est quand tu prends conscience des choses, et là tu es dans cette phase, donc c'est bien.
Ouais.
Mais c'est avant de passer le stade qui n'est plus, enfin en fait, qui n'est plus solvable, que t'arrêtes tes bêtises d'une certaine manière et que tu dises, ok, maintenant je prends du recul, je fais une pause, je me repose un peu, et tu vas te rendre compte qu'en fait tes batteries vont se recharger beaucoup plus vite que tu ne crois, parce que t'es entrepreneur et que t'as l'air d'avoir une énergie de dingue, la preuve, sinon t'aurais pas autant de boîtes. Mais donc tu vas te recharger très vite, si jamais tu le fais à temps. Si tu le fais pas à temps, c'est une autre histoire.
Écoute, c'est formidable tous les conseils que tu m'apportes pendant cette leçon. Je vais essayer de voilà de bien réfléchir. J'ai la chance d'avoir un mari à mes côtés, un petit peu comme tu as cette chance aussi, hein. Je vois avec ton conjoint,
Ah oui,
vous
c'est
avez
sûr.
voilà ce partage. Et moi, c'est vrai que depuis 8 ans, il vit à mes côtés tout ce développement. Et je pense que voilà, il a compris lui aussi que j'étais vraiment à la croisée de plusieurs chemins et qu'il fallait que j'enferme peut-être quelques-uns pour me consacrer beaucoup plus sereinement sur ce qui aujourd'hui aussi peut me rapporter. On se lève tous le matin avec un objectif, c'est déjà se faire plaisir dans son travail, mais aussi en gagner sa vie. Et aujourd'hui, c'est vrai que
Bah, bien sûr.
concrètement, je gagne pas ma vie dans l'entreprise où je fais 12 heures par jour à faire du bien aux autres,
Ouais.
ce qui à la fois me fait du bien parce que je sais que je leur apporte beaucoup de bien-être, mais sur la finalité, j'ai envie que mes entreprises puissent aussi me rapporter. Et je pense que de vouloir être sur tous les fronts, c'est pas la solution non plus, quoi.
Mais tu sais, là-dessus d'ailleurs, c'est pas, il y a un énorme tabou en France sur l'argent. Oui, c'est sale de gagner de l'argent. Mais attends, on va juste remettre les choses au clair, hein. Si jamais tu ne gagnes pas de l'argent avec ton entreprise, elle ne va pas pouvoir être pérennisée. Donc, en tout cas, tes employés qui sont payés quand même par cette entreprise ne pourront pas avoir de salaire.
Ouais.
Les personnes qui sont tes clients ne pourront pas avoir tes services. Donc, en fait, ce type d'entreprise qui n'est pas rentable, qui est tenue à bout de bras par l'énergie d'une personne, en l'occurrence toi, ça n'est pas viable. Et tu ne fais un cadeau à personne, surtout pas toi, mais même aux autres, à garder, en fait, une entreprise qui n'est pas viable. Parce que tes employés, si jamais t'es en burn-out, bah, en fait, tu vas partir du jour au lendemain, ils vont se retrouver à la rue, ils auront eu aucune explication, ça se passera pas bien pour eux. Alors que là, tu peux très bien faire les choses. De la même manière, pour tes clients, c'est pas, si tu veux avoir une entreprise où certainement le service va finir par se détériorer si jamais t'es plus du tout motivé, bah c'est pas bon non plus si tu veux. Donc en fait, l'argent n'est qu'une conséquence sincèrement d'une bonne gestion. Et donc si jamais cette entreprise, en fait aujourd'hui, elle ne te rapporte pas pour plein de raisons, en fait à un moment donné, il faut arrêter de se dire que tu vas la mettre sous perfusion. Tu vois, c'est désolé, c'est peut-être pas politiquement correct, mais tu fais survivre quelque chose qui est voué à mourir depuis un moment peut-être. Alors qu'à l'inverse, t'as à côté, désolé, mais un tas d'or qui t'attend par terre, que tu n'as juste qu'à soulever, et en plus qui va faire plaisir, je suis sûre, à plein de gens qui seront ravis, soit d'être tes collaborateurs, soit d'être tes clients. Donc c'est, en fait, là, on est un peu en train de se taper la tête contre des murs.
Clairement.
Bon, écoute, je suis désolée, j'ai été un peu dure parce qu'en plus, je pense que c'est un projet qui te tient à cœur depuis des années. Donc, je suis désolée, excuse-moi Séverine, d'avoir été un peu vocale, mais je m'excitais pas du tout contre toi. J'étais plutôt en train de comment dire, d'être énergique contre des idées reçues selon lesquelles, en fait, c'est pas bien de gagner de l'argent avec son entreprise. Je pense que c'est faux et je pense que t'as tout à fait raison d'avoir ça à l'esprit et qu'en fait, tu es entrepreneur, tu fais ça parce que c'est ta passion, mais aussi parce que c'est ta vie et que et en fait, tu es la personne la plus précieuse de ton entreprise. Donc, si tu n'arrives pas à te payer parce qu'en fait, cette entreprise n'est pas rentable et que tu ne fais que donner de ton temps, bah en fait, c'est comme si tu es la poule aux œufs d'or. Si tu veux, t'es en train de toi-même d'auto-saboter ton entreprise parce que tu n'arrives pas à te rémunérer.
Oui, et donc c'est pour ça que ça gangrène tout le reste autour, quoi, la vie de famille.
Exactement, c'est pour ça que je te dis, la vie de famille, ouais. Les collaborateurs, l'ambiance, à tout niveau, c'est mauvais, si tu veux. On pense qu'en fait, c'est une question financière, mais non, c'est beaucoup plus vaste que ça. Et donc, c'est pour ça, au contraire, je voulais, et donc, excuse-moi si j'étais un peu rude, mais je voulais juste te libérer pour te dire, mais si c'est ça le sujet, et pour autant, je comprends que ça te tienne à cœur parce que c'est un sujet, c'est une entreprise sur laquelle t'as mis toutes tes tripes, ton temps, ton émotion. Mais en fait, au contraire, tu vas te sentir libéré, parce que tu vas arrêter de porter à bout de bras quelque chose qui était certes un beau projet, mais un projet, en fait, qui n'était tout simplement peut-être pas viable financièrement. Et c'est pas grave, c'est comme ça, il y en a plein. C'est pas pour autant que c'est pas des projets intéressants, mais en fait, ils sont pas durables, et puis c'est tout.
Mais ça fait du bien de l'entendre.
Et la bonne nouvelle? Ouais. La bonne nouvelle, c'est que t'en as un autre qui a l'air bien durable et bien intéressant à côté. Donc oui. Ça, c'est génial. T'es déjà dans une situation que beaucoup de personnes n'ont pas.
Je crois que c'est la force des entrepreneurs, c'est que quand on clôture un sujet, on en a un autre qui arrive. Donc bon, en tout cas, merci infiniment, Pauline. Je le redis, ça fait peut-être un peu lourd, mais on a beaucoup de chance de t'avoir.
Ça fait toujours plaisir, tu sais, un vendredi soir comme ça, un petit coup de. Un petit pep talk, ça me fait du bien aussi. Bon, Séverine, écoute, en tout cas, merci pour ton temps. C'était un peu décousu ce que je te racontais, mais ça venait du cœur. J'espère que ça te plaira quand même. Et puis, surtout que ça t'a un peu redonné de l'espoir. Oui. Je pense que t'as pas de mauvaises décisions à prendre. C'est pas des choix faciles, c'est sûr. Mais au final, j'ai l'impression que tu sais déjà un peu ce que tu vas faire. Prends quand même le temps d'y réfléchir. Parle-en à ton mari. Réfléchis, voilà, prends du recul et j'ai pas de doute que tu prendras la bonne décision.
Merci pour tes précieux conseils et puis je te souhaite de passer de très belles fêtes en famille avec tes proches.
Merci et toi aussi.
Merci beaucoup, Pauline.
Et voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette leçon vous a plu. J'ai pour ma part passé un très bon moment. Si ça vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à diffuser cet épisode, bien sûr, autour de vous, sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram et j'en passe. Et puis pourquoi pas un peu de bouche à oreille, hein, de vive voix, ça marche aussi. Et puis surtout, si vous souhaitez postuler à une leçon, eh bien c'est très simple. Vous pouvez me contacter sur mes réseaux sociaux, Pauline Legno sur Instagram, sur LinkedIn, Pelegno sur Twitter. Et puis pourquoi pas avec hello@paulinelegno.com. On répond à toutes vos questions. Merci à tous pour votre attention et puis je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.